Happy Hour scientifique.
Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Alors, bonne santé, les queues!
Bonsoir, chers auditeurs. Il est 20h01 et bienvenue à la toute première Happy Hour scientifique de l'année 2025. Bon, nous, on enregistre cette émission le 20 décembre à 17h45. Mais on va faire comme si on était effectivement le 2 janvier. Donc bonne année à tous et toutes. Que l'année 2025 soit sereine et pleine de joie. Pour commencer l'année en douceur, ce soir, on va plonger tête la première dans l'étrange monde des songes. Au petit matin, certains se souviennent des épopées vécues dans notre boîte crânienne. D'autres ont la mémoire qui flanche. Certains auront rêvé de rhinocéros de Java se transformant en patate. Ouais, c'est un rêve à moi. D'autres, d'avoir bu une tasse de café dans leur cuisine. Lorsque nos paupières se ferment, notre cerveau nous embarque dans des univers parfois plus qu'étranges, mais aussi souvent tout à fait ordinaires. Longtemps insaisissables, les rêves ont toujours fasciné, questionné. Que se passe-t-il donc dans notre cerveau lorsque nous rêvons? Y avons-nous accès? À quelles difficultés font face les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur la science des rêves? Comment s'y prennent-ils pour étudier et décrypter ce phénomène qui maintient à ce jour son aura de mystère? Pour nous accueillir et pour nous parler de tout ça, on a, nous, le plaisir d'accueillir Yanis Idir.
Bonjour tout le monde.
Yanis, bonjour. Tu es docteur en sciences cognitives. Tu as travaillé dans la Dream Team à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et tu as récemment soutenu ta thèse qui portait sur l'exploration de ce qu'il se passe dans la tête des dormeurs, en prenant notamment le somnambulisme comme moyen d'accès. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Autour de la table, il y a Cléo qui va mener l'interview avec moi.
Hello.
Sybille, qui va nous parler de rêves lucides avec une chronique.
Oui, salut.
Alice, pour nous faire jouer à l'incontournable Caps ou pas Caps.
Hello.
Jocelyn, pour nous désaltérer d'actu scientifique.
Bonjour tout le monde.
Et enfin, PA à la technique. Merci à tous et à toutes d'être là. Et avant de plonger dans le vif des discussions, place au shot à l'invité.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
On rappelle le concept. Donc, les shots à l'invité, c'est pour toi, Yanis. Je vais te poser un maximum de questions en une minute.
Ok.
C'est la happy hour. Le barman se rapproche et te demande qu'est-ce que je vous sers. Qu'est-ce que tu réponds?
Je prendrai un gin tonic.
Yanis, d'où tu viens?
Je viens de Limeil-Brévan, dans le 94.
Faire sa thèse, rêve ou cauchemar?
Rêve.
Tu voulais déjà faire ça quand t'étais petit?
Non.
C'est quoi le dernier livre que tu as lu?
Alors là, en ce moment, je lis plutôt des mangas, Dreamland.
Okay. Oh, ça tombe bien. Niveau film, plutôt contrôle des rêves comme dans Inception ou se réveiller tous les matins le même jour comme dans Un jour sans fin?
Inception.
Les moutons qu'on compte pour s'endormir, ils pensent à nous dans leur sommeil?
Je crois pas.
On dit de toi que tu es un rêveur ou que tu as les pieds sur terre?
Rêveur.
Et d'ailleurs, Yanis, c'est quoi ton rêve le plus fou?
Mon rêve le plus fou, c'est...
Voilà, sort de mystère.
C'est le spectre. J'ai eu peur de pas en avoir assez.
Merci beaucoup pour ces shots. Donc, Yanis, avant qu'on lance la discussion sur les expériences oniriques, un joli adjectif pour désigner ce qui est relatif au rêve. Peux-tu justement nous définir ce qu'est un rêve et ce qu'est la science des rêves?
Alors, les rêves sont classiquement définis comme étant donc, toutes les expériences conscientes et mentales que l'on va avoir pendant le sommeil. Donc ça peut aller des rêves justement, ça peut être des pensées, des sensations, etc. Et la science du rêve, elle a pour but de comprendre les fonctions de ces expériences mentales et conscientes et d'essayer d'en tirer un maximum parti pour comprendre la nature des rêves.
Physiologiquement, en fait, le sommeil, il se compose de cycles de 4 phases. Donc on a l'endormissement, sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Et en fait, est-ce que l'on peut rêver dans toutes ces phases?
Bien sûr, on peut rêver dans toutes ces phases, mais pendant très longtemps, on pensait qu'on rêvait seulement pendant le sommeil paradoxal. Mais il y a plus d'une vingtaine d'années, il a été montré le contraire, qu'on rêvait bien pendant tous les stades de sommeil et pendant toute la nuit.
Et d'ailleurs, est-ce que le contenu des rêves diffère selon le stade de sommeil dans lequel on est?
Il peut différer, effectivement, il diffère en qualité et en quantité. Donc on va beaucoup plus rêver, par exemple, en sommeil paradoxal, avoir des rêves un peu plus fous, comme vous disiez tout à l'heure. Rêver d'une vache qui surfe à Hawaï, etc. Et pendant le sommeil lent profond, par exemple, le sommeil lent, de façon générale, on va avoir des rêves un peu plus simples de la vie quotidienne, type boire une tasse de café.
Ok. Et est-ce qu'on a des hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi les contenus diffèrent de cette manière, selon le stade de sommeil?
Il n'y a pas vraiment d'hypothèse qui expliquerait à quel point les rêves diffèrent, mais par contre, physiologiquement, on sait que l'activité cérébrale n'est pas la même dans tous les stades de sommeil, ce qui pourrait expliquer donc des fonctions diverses et des facultés qui reviennent ou qui disparaissent pendant le sommeil et qui amèneraient à divers scénarios, à diverses expériences conscientes et mentales, justement, à travers la nuit.
Et donc, on sait à quoi ça ressemble, un cerveau qui rêve ?
Alors, pendant très longtemps, on ne savait pas à quoi ressemblait. En fait, il y a une équipe, notamment néerlandaise, maintenant, avec à sa tête Francesca Ciclari, qui, elle, a pour but de trouver la signature cérébrale des rêves. Donc, elle l'a plus ou moins trouvée, c'est ce qu'elle appelle la haute zone, ou la zone chaude, ou le dream mode, ou le conscious mode. Okay. Et en fait, on sait que lorsque des personnes, avant le réveil, donc avant de rapporter un rêve, ont cette donc activité au niveau postérieur du cerveau qui est très active, vont rapporter un rêve. Et donc ça, c'est une première piste de signature cérébrale des rêves. Mais de rêver pas de quoi on rêve.
D'accord. Mais du coup, ça, c'est le... ils ont remarqué cette activité au niveau postérieur quand, il y avait, quand les personnes rapportaient un rêve.
C'est ça.
Mais est-ce que, justement, enfin, est-ce qu'on sait faire la différence entre des personnes qui ont rêvé et qui arrivent à rapporter un rêve et des personnes qui ont rêvé mais qui ne rapportent pas ce rêve? Et est-ce qu'on, enfin, comment on fait la différence justement?
Alors généralement, donc on ne peut pas le savoir en direct. Donc ça va être des analyses qu'on va faire à posteriori. Et donc les personnes qui vont avoir l'hippocampe qui est un peu plus activé avant le réveil vont être amenées à beaucoup mieux se souvenir de leurs rêves. Mais les personnes qui ont l'hippocampe moins activé avant le réveil, mais qui ont aussi la haute zone activée, vont être amenées à soit avoir un rêve un peu moins fourni ou alors pas rapporter de rêve.
D'accord, ok. Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est compliqué justement de se souvenir de ses rêves? Parce que généralement, c'est pas donné comme tâche.
Alors, on sait que les rêves sont labiles, enfin, le souvenir du rêve est labile. On ne sait pas vraiment expliquer pourquoi exactement les rêves disparaissent à ce point-là. Donc, il y a plusieurs hypothèses. On n'a pas vraiment de piste pour expliquer cet oubli le matin. Il y a des personnes qui, comme j'ai dit, sont plus à même de s'en rappeler. Des fois, ça peut même fluctuer chez une même personne. C'est-à-dire qu'un matin, on va mieux souvenir. On peut avoir des périodes, en gros, on va mieux souvenir. D'autres périodes, on va moins souvenir. Mm-hmm. Et ça, c'est juste l'attention qu'on va porter en fait, à nos rêves, tout simplement.
Est-ce que ce n'est pas quand on se réveille en plein milieu d'un rêve qu'on a plus tendance à s'en souvenir, ou c'est juste un mythe
Oui, si, bien sûr. Si on se réveille en plein milieu d'un rêve, on va être mieux, plus amené à rappeler quelque chose. Ouais.
Okay. Et moi, j'avais une question par rapport à l'hippocampe. Tu as dit que vous avez remarqué que les personnes se souvenaient mieux de leurs rêves quand elles avaient l'hippocampe activé. Mais pourquoi, c'est peut-être pourquoi, ce n'est pas la bonne question, mais pourquoi l'hippocampe s'activerait? Est-ce que c'est juste une corrélation en mode « Ah, on voit que... » Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait?
C'est tout simplement la fonction de l'hippocampe qui est d'encoder de l'information.
Ok.
C'est un tampon, c'est comme un péage en fait de l'information. Et donc si il est plus activé, alors on va être amené à mieux, on va encoder quelque chose en fait. On va pas nécessairement avoir un réel souvenir comme durant la vie éveillée, mais on va être plus amené à avoir une impression dans notre esprit et à le rapporter à l'éveil. En gros. Si j'ai répondu.
Tu as tout à fait répondu. Merci beaucoup.
Toi, tu t'en souviens bien de tes rêves en général ou pas?
Ça va, en moyenne les gens se rappellent de un ou deux rêves par semaine. Moi je pense que je suis dans la moyenne. Je me rappelle plus ou moins bien, mais ça dépend, pareil, c'est des périodes aussi.
C'est déjà pas mal. Assez avec Ilona, on s'est un peu plongé dans ta thèse. Avant de parler de ça, c'est vrai que quand on parle de la science des rêves, ça fait beaucoup rêver, ça fait beaucoup fantasmer, mais c'est aussi très difficile d'étudier les rêves. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et je pense notamment à quelques limites méthodologiques. Là, c'est vrai qu'on vient de parler de la difficulté à s'en rappeler. Et donc, en quoi c'est difficile d'étudier les rêves?
Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas d'outils de mesure qui accèdent directement aux rêves. Donc, à partir du moment où on n'a pas accès directement à notre objet d'étude, et qu'il est seulement rapportable par des participants qui eux-mêmes sont biaisés par des mécanismes d'oubli, etc. À partir de ce moment-là, on perd la richesse réelle de ce qu'est le phénomène. Donc c'est une des premières limites, c'est la façon dont on va étudier les rêves, donc le rapport de rêve, qui est l'objet d'étude le plus utilisé par les chercheurs.
Parce qu'en fait, la difficulté aussi, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous devez faire le lien entre donc, une activité cérébrale et un truc qui est assez subjectif, donc le fait que les gens s'en rappellent ou pas. On peut aussi avoir l'impression d'avoir rêvé, mais sans forcément se rappeler du contenu. Oui. C'est ça, non ? C'est un truc un peu à la fois très cérébral et à la fois une expérience totalement subjective. Tu ne peux pas vraiment accéder...
C'est ça. En fait, comme on disait tout à l'heure, des fois, on peut se réveiller le matin en ayant eu la sensation de rêver, mais sans s'en rappeler. Et donc, nous, tout ce qu'on va... Et ce que faisait aussi Francesca, c'est de questionner les participants pendant la nuit, donc de les réveiller à des stades de sommeil spécifiques. Donc, on va s'aider de l'électroencéphalogramme pour ce qui s'appelle une polysomnographie. On va s'en servir pour suivre le sommeil des participants et les réveiller à des endroits spécifiques. Et à ces endroits spécifiques-là, on va savoir s'ils vont être capables de rapporter un certain nombre de rêves ou pas. Et la plupart du temps, et en fonction des stades de sommeil, il est plus ou moins facile d'obtenir des rapports de rêves.
J'ai une question, quand vous les réveillez comment ?
Alors, on les réveille avec des sons la plupart du temps.
Ah, mais des sons
un but de réveil ?
Ça dépend des expérimentations. Par exemple, moi, dans l'une de mes expérimentations, on utilise des pure sounds, donc c'est des sons très aigus sur des pulsations de 3 secondes. Mais on peut utiliser d'autres choses, on peut utiliser d'autres façons de réveiller. Le problème, c'est quand est-ce qu'on veut réveiller la personne ? À partir du moment où on utilise un son pour réveiller quelqu'un, on n'est pas sûr de la réveiller tout de suite. Moi, c'est déjà arrivé que je mette 20 minutes à réveiller quelqu'un. Ouais, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc, quand on va cibler un contenu de rêve ou quoi que ce soit, il faut réussir à réveiller le plus rapidement possible. Mais plus on va mettre de temps à réveiller, plus on va s'éloigner de la source de ce qu'on cherche. Et peut-être que le son va être intégré pendant le moment où on essaie de réveiller. Donc, ça va impacter le rapport de rêve, s'il y a rapport de rêve.
Ah, mais oui. Bah, c'est comme quand tu rêves que tu danses sur ta musique de réveil.
Ouais,
ouais, exactement.
Et vous essayez de les réveiller de manière pas brutale, en fait. C'est pour ça que vous utilisez des sons. Parce que sinon, les secouer, ça peut...
Les secouer, ça... Bah, en fait, n'importe quelle stimulation, en dehors du réveil normal, en fait... vont les perturber. C'est-à-dire qu'on va utiliser des stimulations sensorielles. Ça peut être du toucher, ça peut être des sons, ça peut être des odeurs, ça peut être plein de choses. Mais ce qui marche le mieux, c'est les sons.
D'accord.
Ouais. Mais est-ce que ça se voit aussi sur les images, le côté un peu sursaut du son qui réveille?
Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver.
Mais c'est un peu drôle, tu te sens un peu coupable quand même.
Ouais, ouais. Bah, en fait, quand on commence, ouais, quand on commence à faire des manips de nuit, à réveiller des participants, on se sent un peu coupable de forcer.
Bah ouais.
On force clairement pour le réveiller.
Et merci pour cette première discussion. On va passer à la première pause musicale.
I'm never
C'était In My Dreams de Kali Uchis.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Donc on a vu juste avant cette super chanson que c'était particulièrement difficile d'étudier les rêves. Dans tes travaux de recherche, Yanis, tu as étudié en tort et à travers le somnambulisme. Donc ce trouble du sommeil fait partie d'une famille de troubles appelés les parasomnies du sommeil lent profond, qui inclut aussi par exemple les terreurs nocturnes. On a souvent cette perception des somnambules comme des pantins inconscients qu'on retrouve en train de marcher et parler en pleine nuit. Mais tu soulèves dans ta thèse qu'en réalité, il y a peu d'études qui ont cherché à caractériser en profondeur l'état de conscience des patients pendant les épisodes. Toi, Yanis, tu as utilisé dans ta thèse le somnambulisme comme modèle d'accès au contenu mental des dormeurs. Pourquoi avoir choisi ce trouble du sommeil comme fenêtre d'ouverture sur le contenu des rêves ?
Alors, comme tu l'as dit, c'est pendant très longtemps, en fait, le somnambulisme a une histoire folle qui date de plusieurs milliers d'années. Je suis désolé, je reviens un peu en arrière pour mieux expliquer pourquoi on s'intéresse à ce modèle-là pour étudier les rêves. Les premiers écrits, c'est Hippocrate. C'est dans le Morbo Sacro, à peu près moins 500 ans avant Jésus-Christ. Et on l'a placé dans les maladies sacrées. C'est-à-dire qu'on ne savait pas expliquer pourquoi il y a des gens qui bougeaient dans leur sommeil.
Maladie sacrée.
Et on ne savait pas pourquoi. Et donc, ça a été mis de côté comme étant quelque chose, une curiosité, quelque chose qui est amusant à discuter, à regarder, etc. Et en fait, ça a traversé les âges comme ça, sans qu'on explique vraiment ce que c'était, et même c'était un peu un casse-tête pour les scientifiques et les penseurs de l'époque. Et je fais une grosse traversée historique, on arrive au XXe siècle, on développe l'électroencéphalogramme, et là on découvre qu'on rêve pendant le sommeil paradoxal, donc on répond à la question de quand est-ce que nous rêvons en partie, et on découvre que pendant le sommeil profond, on n'a pas de rêve. Et donc le somnambulisme, puisqu'il émerge durant le sommeil lent profond, on a toujours admis qu'il n'y avait que les comportements de ces patients n'avaient pas de caractère onirique. Et donc ça a traversé comme ça pendant très longtemps, jusqu'à revenir actuellement à changer totalement de paradigme et à parler de concept de dreamwalking. C'est-à-dire que maintenant on considère que les somnambules ont en partie dans leur comportement une trace onirique, une sorte d'écho de ce qui se passait dans leur rêve. On peut appeler ça une invasion de rêve même pendant leurs épisodes. Et donc, à partir de ce paradigme-là, qui est juste basé sur des questionnaires, c'est-à-dire qu'on interrogeait seulement des somnambules et on leur demandait est-ce que vous avez des rêves ? Est-ce que vos comportements sont liés à vos rêves ? Etc. Et il s'est avéré que dans plus de 80% des cas, les patients répondaient que oui. Mais on n'avait toujours pas d'expérimentation. Donc nous, on est parti de ce principe et de ce paradigme en se disant maintenant, si on admet que les somnambules, durant leurs épisodes, ont des rêves, alors ça peut être un excellent modèle pour accéder directement aux rêves. Parce que là, on aurait une opportunité incroyable pour le sens des rêves de savoir observer directement des comportements tirés tout droit du monde des rêves. Donc c'est vraiment une aubaine.
Est-ce qu'on sait si le rêve il est lié au mouvement des somnambules ou est-ce que ça n'a rien à voir ?
En fait, les deux sont mélangés. En fait, il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont déclencher des épisodes. Des fois, ça peut être des causes externes. Et donc, les comportements vont être en lien avec ce qui s'est passé à l'extérieur. Et donc, tous les comportements vont... En fait, le contenu mental va s'adapter à ce son et donc va fomenter tout un process onirique qui va tendre vers ça. L'autre aspect, c'est que parfois, en fait, les somnambules arrivent en... commence un épisode et on ne comprend rien. Ça a l'air incohérent parce qu'ils sont en plein milieu d'un rêve, en fait. C'est comme si là, on discutait et en même temps, là, d'un coup, dans la réalité, je suis en train de parler avec vous, sauf que les gens ne voient pas que vous êtes autour de moi, etc. Donc, en fait, on peut être dans un cours de rêve pendant un épisode, comme avoir des mélanges entre la réalité, des comportements qu'on va avoir, et ce qu'on avait comme trace, comme écho du monde onirique.
Okay. Est-ce que quand on parle et que dans notre sommeil, c'est considéré comme du somnambulisme ?
Ouais, alors ça s'appelle la somniloquie. Donc ça fait partie de certains traits de comportement que peuvent avoir les somnambules. Et de façon générale, les patients qui ont des parasomnies du sommeil lent, parler, oui, ça fait partie du somnambulisme.
Parce que je parle d'une expérience qui m'est arrivée où en fait c'est hyper flippant. Enfin, c'était quelqu'un qui s'est levé de son lit, qui s'est assis et qui répondait à mes questions, mais c'était très incohérent. Mais la personne, tu sais, il y avait un vrai temps d'échange de respect de questions-réponses, questions-réponses et un rire terrifiant de film d'horreur. Et du coup, c'était un truc où j'avais pas capté que c'était un somnambule parce que ça matchait dans les codes sociaux. Donc c'était très très bizarre.
Et même, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de parler moi dans mon sommeil. Je me demande si j'étais somnambule.
Bah, c'est assez pertinent en soi parce que toi, toi, Yanis, tu as justement essayé de communiquer avec, avec le somnambule durant ta thèse. Mais avant que tu t'étayes sur ce sujet, je vais d'abord demander autour de table, un petit tour de table et demander à vous tous, comment est-ce que vous pensez qu'une étude sur les somnambules est menée, justement ?
Oh, waouh ! Alors... non mais moi je suis restée juste sur le réveil des gens et moi on m'a toujours dit de pas réveiller un somnambule.
Oui,
du coup
aussi.
Là moi je sais plus comment on fait. On n'est pas comme dans Vice Versa où on a accès comme tu disais à la télévision du rêve donc.
Bah déjà faut les sélectionner quand même, faut savoir qui est somnambule ou pas. Donc j'imagine. Après c'est dur, tu passes par un truc dans le journal donc peut-être je sais pas tu passes par des hostos ou des... Mais du coup, si tu passes par des hostos, ça veut dire que les gens, ils ont un problème avec le fait d'être somnambule.
Mmh. Et puis, tu sais, je pense que t'as un peu la pression. Si t'es somnambule et que tu réponds à ça, tu dois avoir un peu la pression de « Ok, ce soir, il faut que je me lève. »
Ben oui, c'est ça, c'est que j'imagine que tu te lèves pas tout le temps quand t'es somnambule.
Non, je pense pas.
Ouais. Est-ce qu'il y a des... Tu peux leur... Tu les drogues, tu leur...
Ça fait des témoins positifs, c'est cool.
Je crois pas.
Mais du coup, ça se passe comment pour de vrai ?
Voilà. Bah, du coup, Yanis, à toi de nous éclairer. À quoi ça ressemble, par exemple, une journée type d'études sur les somnambules ?
Alors du coup, ouais, c'est très particulier d'étudier le somnambulisme parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, donc, il faut poser un cadre expérimental pour pouvoir le tester. Donc on trouve les patients, moi j'ai travaillé donc, au service des pathologies du sommeil. Donc effectivement, ce sont des patients qui venaient au service et donc on avait accès à eux et on pouvait leur proposer de participer aux expérimentations.
Du coup, c'est déjà des gens qui ont des problèmes liés au fait qu'ils sont somnambules.
Ouais, on vérifie ça. Mais même, de toute façon, pour expérimenter et pour mener une bonne étude, il faut que ce soit des patients qui soient atteints de parasomnie somnolente de façon avérée pour qu'on puisse être sûr qu'on mesure bien ce qu'on mesure. Mais comme tu l'as bien dit, c'est très compliqué en laboratoire d'expérimenter sur des patients somnambules parce qu'il peut y avoir cette pression aussi de... On ne contrôle pas le fait d'avoir des épisodes durant la nuit. Donc, il faut que nous, en tant que chercheurs, on trouve des moyens de contrôler expérimentalement le déclenchement des épisodes. Donc ça, c'est la première étape. C'est comment on peut déclencher, comment on peut maximiser le nombre d'épisodes en laboratoire sans non plus affecter les patients, sans non plus, en faisant attention à tous les paramètres environnementaux qui ne sont pas les mêmes que chez les patients eux-mêmes, où ils font généralement plus d'épisodes. Et en laboratoire, ce qu'il faut savoir, c'est que les patients en fait, font beaucoup moins d'épisodes, et même quand ils en font, c'est beaucoup moins long. Donc ça va être de 1 à 2 minutes maximum en laboratoire, comparé à 5 à 30 minutes à la maison.
On sait pourquoi ou pas, ça ?
Bah, ça peut, on ne sait pas pourquoi, mais on se doute que c'est très lié à l'environnement.
La confiance dans l'environnement, c'est...
En fait, c'est... non, c'est ça, on, ça n'a jamais été étudié, en fait. C'est que des suppositions, en fait, des spéculations sur ça. On imagine que le fait de bien connaître son environnement, c'est d'être beaucoup plus attentif à tout ce qui peut s'y passer et aussi à se projeter dans son environnement. Donc ça, ça a fait écho à d'autres travaux menés sur le sommeil, qui est le fait, donc on appelle ça les dormeurs sentinelles, donc on est tous comme ça, c'est-à-dire que pendant le sommeil, on n'est pas totalement inconscient de l'environnement, on est déconnecté dans une certaine forme, à un certain niveau, mais on est toujours connecté à l'environnement et cette sentinelle-là, en fait, elle fluctue en fonction des stades de sommeil. Il est possible que pour les somnambules, cette sentinelle soit beaucoup plus vigilante. Mmh. Et donc, dans un environnement qu'on connaît mieux, il est plus facile de se projeter sur des bruits, des sons qu'il peut y avoir et d'être en alerte en fait, par rapport à ça, comparé à un environnement qu'on ne connaît pas trop et dont on interprète moins bien les sons.
Tu as une question, Jocelyn ?
Juste une petite question, parce que justement, j'ai des souvenirs où ça m'est arrivé par le passé de me réveiller et de n'avoir aucun souvenir du réveil, mais de faire un geste vraiment. Enfin, précis, par exemple, me lever, éteindre le réveil, me rendormir et pas du tout m'en souvenir. Ou des trucs plus compliqués aussi quand j'étais petit, où je pouvais parler, etc.
Okay.
Est-ce que ça rentre dans le cadre du coup, somnambulisme ou...
Ouais, bien sûr. Alors, parler dans son sommeil, oui. Faire des mouvements dont on ne se souvient plus, ça, il faudrait avoir l'EEG pour être sûr que ce soit bien arrivé pendant le sommeil lent, profond. Parce que ça peut juste être des fois, on peut juste, par exemple, entre deux cycles, avoir un micro-éveil et, je sais pas, on s'est endormi avec son ordinateur et en fait, on va le fermer, on va se réveiller le matin, on va faire, j'ai fermé mon ordinateur, mais on s'en souvient pas. Mais c'est pas nécessairement un épisode de somnambulisme, par exemple.
Peut-être tu peux préciser ce que c'est un EEG ?
Un EEG, donc c'est un électroencéphalogramme, donc c'est un outil de mesure utilisé par notamment les neuroscientifiques pour la recherche, qui permet de mesurer l'activité cérébrale en cours.
Mais donc, vous avez essayé de déclencher des épisodes de somnambulisme. Est-ce que ça a fonctionné?
Alors, non, pas vraiment. On n'a pas réussi à beaucoup déclencher des épisodes, parce qu'en fait, on s'est basé sur un seul article de 2008. Donc, c'est un Canadien qui s'appelle Pilon et qui a utilisé ce qu'on appelle un pur somme, dont j'en parlais tout à l'heure, qui est un son donc, aigu à une fréquence de 1000 Hz pulsé sur 3 secondes. Mm-hmm. Et donc, dans 50% des cas, ce qu'ils ont montré, c'est que ça déclenche un épisode, donc un épisode sur deux, et que ça déclenchait dans 100% des cas un épisode lorsque les patients étaient en privation de sommeil. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dormi la nuit, etc. Le truc, c'est que donc on s'est basé sur ça, qui a l'air très très cool.
Oui, ça marche bien.
Mais en fait, c'est pas le cas. Ouais. Et surtout que nous, nos patients ne pouvaient pas, dans notre protocole, faire de privation de sommeil, parce que c'est très coûteux. Enfin, il faut inventer plein de moyens de logistique pour le faire. Donc on faisait pas de privation de sommeil, mais à la place, on faisait deux nuits. Et donc on fragmentait un peu le sommeil de la nuit une pour un peu fatiguer. Et la deuxième nuit était comme une nuit comme si on avait privé de réparatrice, voilà, et où on était censé avoir plus de sommeil en profond, donc avec plus potentiellement d'épisodes. Donc ça n'a pas trop marché, en fait. Les Pure Sound, vraiment, je crois qu'il était à 7% comme ça de déclenchement d'épisodes. En revanche, on a pu essayer d'autres choses qui fonctionnent un peu mieux, mais ça reste encore très exploratoire.
D'accord. Mais vous avez quand même, il y a eu quelques instances là où vous avez pu déclencher des épisodes.
Oui, on a quand même pu déclencher des épisodes. Peut-être je devance la question, mais on a pu avoir un seul cas d'échange aussi indirect avec un patient.
D'accord.
La seule fois, parce qu'à chaque fois qu'on déclenchait des épisodes, en fait, soit les patients ne nous écoutaient pas, soit ils se rendormaient directement et la fenêtre était refermée. Donc, c'est-à-dire que la fenêtre d'épisode était trop courte pour que, à la fois, je vois qu'il y a l'épisode et en même temps que j'appuie sur les boutons pour envoyer des questions, etc. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi, quand les gens acceptaient, je suppose, vous avez aussi filmé les gens du coup chez eux,
ouais.
Donc dans des conditions un peu plus écologiques. Et ça, qu'est-ce que ça a donné?
Alors ça, c'est du coup, ça a confirmé ce qu'on pensait. Donc c'est pas nous qui avons filmé pour l'étude de mon article que vous avez cité. C'est Régis Lopez, donc qui est un psychiatre de Montpellier, qui a accepté de nous partager les vidéos qu'il avait eues avec ses patients. Et donc nous, notre travail, donc, était différent du sien. Nous, c'était de se concentrer sur toutes les fois où en fait des patients avec leurs partenaires communiquaient pendant des épisodes. Donc dès qu'un patient avait un épisode, on regardait s'il discutait avec son partenaire ou pas, et quelles étaient les qualités verbales aussi de ces échanges-là, le contenu de ces échanges, le temps de ces échanges, etc. Et donc en fait, on en a observé beaucoup, quand même pas mal, pas mal d'épisodes, une assez bonne portion avec des échanges clairs et avérés. Ça a mis du temps, parce qu'on ne pouvait pas se baser que sur moi. Là, il y a une discussion, donc on a dû recruter donc des juges externes qui ont dû, eux, avec une grille, dire « effectivement, donc ça, c'est ça, avec donc ma grille », et confirmer donc sur lesquels on était d'accord. Quoi.
Il est à présent temps pour le Caps ou pas Caps, préparé par les soins d'Alice.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Alors moi, j'ai pas très bien écouté la consigne, parce que tu as dit qu'on faisait une émission sur les rêves, et moi, quand je pense à rêves, je pense à Disney. Et j'ai été biberonnée au monde féerique du patriarcat et des animaux qui parlent toute mon enfance. Donc j'ai créé un Caps ou pas Caps en m'inspirant d'une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Twente, qui a été publiée le 16 décembre, dans le British Medical Journal. Et ces chercheurs proposent de s'intéresser aux risques pour la santé dans la vraie vie auxquels les héroïnes de Disney seraient confrontées si elles étaient des vraies humaines. Alors moi, je vous propose de retrouver le personnage fictif de Disney avec les syndromes et les symptômes que je vous décris.
Allez.
Et si vous avez vraiment besoin d'un indice, je vous chanterai une petite chanson de
Laverie.
Non, c'est, en vrai, vous allez trouver. Vous allez trouver très très vite. Alors, princesse numéro 1. Mon exposition chronique aux poussières et aux microplastiques me provoquera sûrement bientôt des maladies respiratoires. La bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, ou la fibrose pulmonaire sont des maladies qui arrivent si l'on est exposé souvent à des environnements insalubres. Sans oublier les maladies de peau. Tu as une idée, Ilona ?
Ouais, j'ai... C'est Cendrillon ?
C'est tout à fait Cendrillon !
Les rêves qui sommeillent dans nos cœurs, au creux de...
Bravo, Ilona. Et j'avais aussi mis les maladies de peau qui peuvent brûler. La javel, quoi.
Ah.
Princesse numéro 2. Je souffre d'un manque de lien affectif et social. Cela me rend vulnérable face aux problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété. Je me sens très isolée. Les études relient ma solitude chronique à des troubles du système immunitaire et donc je pourrais être immunofaiblarde comme Princesse Asse.
Ah c'est réponse.
Ah, j'avais dit.
C'est pas réponse.
Je vais le dire aussi.
Je continue mon récit. J'ai grandi enfermée dans un palais, sans oublier que mon tigre de compagnie m'aime apprivoiser.
Ah, c'est Belle.
Non.
De la Belle et la Bête.
Ah non, c'est Jasmine. C'est Jasmine, ah. Bravo.
Bien joué.
C'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit.
Ah non, la pauvre Jasmine dépressive.
Bah ouais, elle est toute seule, la pauvre. Et la seule fois où elle sort, et bah elle se fait pickpocketer. C'est quand même pas un peu traumatisant, quoi.
Bah elle va plus sortir après.
Mais au niveau des musiques, t'as vu, j'ai bien respecté le thème. Hein. J'ai mis du rêve. Ça, le rêve, en veux-tu, en voilà. Princesse numéro 3. Si je vivais dans le monde des humains, je pourrais être confrontée à une alopécie de traction. En effet, le poids excessif de ma chevelure pourrait... Oui, là, vous l'avez, bravo. J'aurais chanté tout pareil, comme un 10. Princesse numéro 4. Je risque des problèmes de santé graves en raison de mon immobilité prolongée. Par exemple, je peux souffrir d'obésité ou d'ulcères de pression en raison de ma position allongée.
Belle au bois dormant.
Oui, bravo. Milieu d'un rêve. J'ai hyper bien travaillé. Princesse numéro 5. En raison de mon contact fréquent avec un animal sauvage, je suis confrontée à plusieurs risques biologiques. En particulier, je risque d'attraper des maladies.
La Belle et la Bête.
Oui.
Et bah Yanis.
Il faut noter des scores là.
Et voilà, elle vécure heureuse, mais pas forcément très longtemps, car la mort et la maladie ne sont jamais très très loin. Si on a un peu de temps, j'ai un dernier petit jeu pour finir. Alors je retourne sur de l'actu, vous l'avez peut-être vu passer, mais en août 2024, le streamer Norm est resté éveillé en live sur Twitch pendant 264 heures et 24 minutes, soit un peu plus de 11 jours sans dormir. Du 14 avril au 2 mai 1977, j'ai trouvé dans le Guinness Book of World Records une autre belle performance. Il s'agit de celle de l'anglaise Maureen Westen, qui vient de... dans l'est de l'Angleterre, qui est restée volontairement éveillée 449 heures, soit presque 18 jours et 17 heures.
Ils sont encore vivants, ces gens ?
Non, j'en sais rien. Enfin, le Norm, je crois qu'il est encore vivant. Et en fait, pour l'anglaise, ça fait suite à une activité ludique et sportive très très spéciale qui, moi, me fait mourir de rire. Donc, je vais vous proposer de collaborer ensemble pour trouver la discipline en question. Je vous donne un premier indice, c'est que vous cherchez la combinaison d'une discipline sportive qu'on peut retrouver aux Jeux Olympiques, entre autres, combinée à un objet qu'on peut trouver dans un salon.
Tu peux répéter ?
Alors, c'est une discipline sportive et un objet que tu peux trouver dans un salon. Et ça, c'est ce qu'elle a fait pendant 18 jours et 17 heures qui explique pourquoi elle n'a pas dormi pendant tout ce temps.
Du tennis avec des télécommandes. Elle a essayé de lancer un objet le plus loin possible.
Non, c'est pas du lancer.
Ah.
Mais c'est bien.
Est-ce qu'elle avait besoin de quelqu'un ou elle pouvait faire toute seule ?
Elle l'a fait toute seule.
Elle l'a fait toute
seule.
Est-ce
que c'est du vélo ?
C'est pas du vélo, mais tu te rapproches de quelque chose.
Elle faisait du jogging sur place.
Du jogging, c'est pas mal.
C'est avec la course.
C'est avec la course. Donc c'est ça, c'est la discipline sportive, c'est avec la course.
La marche ? Non, la course.
La course, la marche. Là, ce qui nous intéresse, c'est une distance.
Ah, elle faisait des allers-retours dans son salon.
C'est pas les allers-retours. C'est quoi les courses un peu famous que vous connaissez ?
Elle a fait le marathon dans son salon.
C'est un marathon. Et maintenant, on veut un objet d'un salon. Ça peut être un salon de Westfield.
Sur son canapé.
Ok, plus précis.
Sur son fauteuil.
Plus précis.
Sur son fauteuil.
Sur sa chaise.
Elle a fait un marathon en fauteuil de bascule pendant 18 jours.
Elle s'est balancée du coup ?
Elle s'est balancée pendant 42 km pour avancer. Et c'est quand même une performance impressionnante. Ah bah oui. Et depuis 1997, le comité de records de Guinness a décidé d'arrêter d'enregistrer les records de privation de sommeil parce que c'est dangereux pour la santé.
Oui, mais
c'est quand même vachement marrant.
En effet. Et il est à présent temps pour la deuxième pause musicale. Et c'était Dream of Life de Patti Smith.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Sybille, avec toi ce soir, on plonge dans le monde fascinant des rêves lucides.
Et si ce rêve parfait où tout est sous votre contrôle n'était finalement qu'un rêve raté ? Non, pas un cauchemar, mais plutôt un rêve qui pourrait compromettre notre sommeil crucial au bon fonctionnement de notre organisme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi planter le décor. Un soir, vous rentrez chez vous, bien fatigué après une longue journée de travail. Vous savez très bien quoi faire dans ces cas-là. Une petite tisane, un bon bouquin et hop, au dodo. Mais bon, vous cédez encore une fois à l'appel de votre téléphone. Rien de tel qu'une petite séance de scrolling compulsif avant d'aller taper la bise à ce sympathique Morphée. Malheureusement, plus on scrolle, plus il se fait attendre, jusqu'au moment où...
Today I'm going to share with you the most famous lucid dreaming technique.
C'est encore mieux que la VR, ça s'appelle les rêves lucides.
So, you want to control your dreams.
T'envoler, coucher avec qui tu veux, mais c'est surtout là où ça devient dangereux.
Là, vous êtes scotché devant tant de promesses en 4 étapes faciles. Tous ces youtubeurs qui ont l'air de vraiment s'y connaître vous assurent que vous serez capable chaque nuit de vivre des aventures extraordinaires. Bref, une véritable vie parallèle s'offre à vous. Parce que pourquoi se reposer quand on peut simplement rentabiliser les 7 à 8 heures par jour où l'on ne fait rien ? Merci la société capitaliste. Mais hop hop hop, avant de vous imaginer en super-héros des songes, sachez que ce phénomène traîne avec lui son lot de fantasmes et de théories bien fumeuses.
Mais alors, un rêve lucide, c'est quoi concrètement ?
Un rêve lucide, c'est une expérience qui survient généralement pendant la phase de sommeil paradoxal. C'est cette période où l'activité cérébrale est proche de celle de la phase d'éveil. Pendant un rêve lucide, le rêveur sait qu'il est en train de rêver. Les rêves lucides spontanés surviendraient au moins une fois dans la vie de 51 à 55% de la population humaine, avec une prévalence chez les individus ayant plus tendance à se souvenir de leurs rêves.
Et certaines techniques permettraient d'atteindre cet état ?
Oui, c'est ça. Selon une synthèse publiée en 2023 dans le Journal of Sleep Research, plusieurs techniques permettraient d'induire ces rêves lucides avec des succès variables. La méthode la plus efficace reste la technique MILD, ou introduction mnémonique de rêves lucides, qui consiste à se réveiller plusieurs fois après 4 à 6 heures de sommeil, donc à peu près durant cette fameuse phase de sommeil paradoxal, pour tenter de se remémorer le rêve qu'on était en train de faire et se préparer mentalement à reconnaître cet état en se rendormant. Il y a aussi le test de réalité qui consiste à se demander régulièrement dans notre vie de tous les jours « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Ce test montre des résultats modestes qui sont souvent renforcés quand il est quand même combiné avec d'autres techniques. Il y a aussi la simulation sensorielle, la stimulation sensorielle dont tu parlais un peu Yanis, avec des stimuli visuels, tactiles, auditifs, qui, lorsqu'ils s'activent, peuvent rappeler au dormeur qu'il est en train de rêver. Mais davantage d'études sont nécessaires pour confirmer leur fiabilité.
Et ces rêves, ils sont bénéfiques ou plutôt mauvais pour notre sommeil ?
C'est vrai que l'idée de vivre des rêves lucides a de quoi séduire. Certains disent y accomplir des exploits incroyables, contrôler totalement leur scénario nocturne, sans oublier les nombreux blogs, forums et livres qui en vantent les bienfaits, meilleure santé mentale, créativité boostée, résilience face au stress. Mais soyons honnêtes, les preuves scientifiques restent franchement mitigées. Ce qui est sûr, c'est que cet état entre le sommeil et la veille, où l'activité cérébrale est semblable à celle qu'on a éveillée, peut nuire à la qualité de notre repos. Les rêves lucides seraient souvent associés à un sommeil moins réparateur et des réveils nocturnes fréquents. Et les techniques d'induction, comme se réveiller plusieurs fois en pleine nuit, n'arrangent rien. C'est pas franchement idéal pour être fraîche et dispose dès le lendemain matin. Quant à répondre à la question « Un rêve lucide est-il un rêve raté ?», j'aimerais bien te poser la question, Yanis. Est-ce que le bon rêve, c'est pas juste celui dont on ne se souvient pas ? En tout cas, une chose est sûre, il est déjà 7h15, le réveil sonne, et après toutes ces heures de recherche, toujours pas de rêve lucide, mais surtout, pas de sommeil pour vous.
Alors Yanis, est-ce qu'un bon rêve, c'est pas juste celui dont on ne se souvient pas ?
Eh bah, si, un bon rêve, c'est celui dont on ne se souvient pas, c'est-à-dire le rêve naturel, on va dire, le processus de flot de rêve. Un rêveur lucide, en fait, il va sortir de ce flot. C'est un peu comme si on avait une scène de théâtre, et on joue une comédie, et en fait, le rêveur lucide, c'est celui qui sort de la pièce et commence à faire n'importe quoi. Et qui va commencer à jouer un peu avec le matériel de la scène, à parler avec le metteur en scène, etc. Mais en fait, cette sortie de cadre va fatiguer, en fait, effectivement, le lendemain matin. Ça peut en conduire à fatiguer le lendemain matin, comme tu disais. En revanche, ce qui est intéressant pour les rêveurs lucides, les très bons rêveurs lucides confirmés, c'est leur capacité à pouvoir, en fait, communiquer avec l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Donc, le fait d'être dans une sorte d'anomalie de rêve à un certain moment peut en fait être un moyen bénéfique pour la science du rêve d'accéder directement à un espion du rêve, en fait.
Et quand tu dis communiquer, c'est avec toi, par exemple, si tu fais des expérimentations, par exemple, avec des somnambules, tu disais que ça t'est arrivé de communiquer avec eux. Est-ce que les rêveurs lucides peuvent aussi communiquer comme ça avec des personnes extérieures ou ça n'a pas forcément lien?
Du coup, en fait, effectivement, ça peut être un modèle de communication, mais qui est différent de celui du somnambule. Le somnambule, en fait, si on arrive à communiquer avec lui, on peut parler. C'est-à-dire qu'il y en a des mots, etc. Le vocabulaire est plus riche. Par contre, un rêveur lucide, en fait, on va se serrer. En fait, j'adore ça, en fait. On va détourner l'utilisation de l'électroencéphalogramme, notamment les EEG, qui va mesurer l'activité électrique des mouvements oculaires. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est, comme vous l'avez dit, ça arrive pendant le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, en anglais, ça s'appelle « rapid eye movement ». Et les rêveurs lucides, en fait, sont capables de pouvoir contrôler volontairement le mouvement de ces yeux-là. Ils vont donc envoyer un signal aux chercheurs à l'extérieur pour leur dire « je suis lucide ». Et ils vont faire ce qu'on appelle le code LR2, « left-right, left-right ». Et le chercheur sait à ce moment-là, ok, le participant est lucide. Donc là, je peux commencer à pouvoir lui poser des questions. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est encore attentif à l'environnement. On est encore capable d'intégrer des informations extérieures. Donc à ce moment-là, les chercheurs, donc c'est ce qu'a fait mon laboratoire d'accueil, c'est d'envoyer des questions aux rêveurs lucides. Et les rêveurs lucides ne peuvent pas parler, mais ils ont trouvé un nouveau moyen de communiquer. Donc plus juste dire « je suis lucide », mais de répondre avec des « oui, non ». Et comment ils répondent avec des « oui, non » C'est en contractant deux ou trois fois deux ou trois sourires, en gros, et en contractant deux ou trois fois les sourcils, donc les corrugateurs. Et donc, grâce à ces codes-là, ils peuvent répondre à des questions fermées, donc que ce soit mathématiques, etc., de vocabulaire, ou de connaissances générales, en fait.
Mais comment on leur envoie les questions ?
à l'oral. Enfin, on peut avoir des baffles, par exemple, dans la chambre, okay. Et on précède des questions. Et on envoie des questions.
Non, mais ils sont en double réalité. Genre, ils sont dans la réalité du rêve et ils sont dans la réalité de je t'entends. Mais
et en fait, ils ont. En fait, bah, peut-être aussi, je gratte la prochaine question. Mais en gros, je sais même plus ce que je voulais dire.
ils entendent la question.
Oui, voilà, pardon. Du coup, comment eux, ça se matérialise le fait d'entendre la question, c'est généralement, c'est soit une voix dans le ciel, normalement une voix off, comme dans un film, ou alors ça peut sortir du téléphone ou de la radio ou des choses comme ça.
Ah, c'est hyper... comme quand tu danses sur ton réveil, justement. Le truc de la réalité qui est matérialisé de façon un peu différente
exactement.
Dans ton rêve.
Exactement.
Incroyable. C'est déjà arrivé à quelqu'un de faire un rêve lucide, là, autour de la table ?
Oui, moi aussi, ouais.
Mais c'était pas très long. Moi, c'est genre, j'étais en train de me faire poursuivre, parce que tous mes rêves sont hyper stressants. Et tout d'un coup, j'étais en mode, mais là, je peux voler, hein. Et je me suis mise à voler, et en plus, je volais de manière hyper bizarre, où juste je fais des énormes bonds dans le ciel, et je réatterris tout doucement.
Ah, t'étais sur la Lune.
Ouais, et en plus, je voyais la Terre qui défilait avec mon corps un peu en mode écureuil volant. Et toi, c'était quoi ?
Moi, en fait, j'avais une période quand j'étais ado où je faisais des rêves trop dingues. Genre, j'avais vraiment une vie parallèle. Et je faisais pas mal de rêves lucides à ce moment-là. Et en général, moi aussi, le premier truc que je faisais direct, c'était voler. Mais je me souviens de ce rêve qui était trop bizarre parce que je me faisais poursuivre aussi et j'arrivais en fait au bord d'une falaise. Et donc je me disais, bon, le seul truc que je peux faire là, c'est sauter. Donc je saute, je meurs. Et puis après, je me rends compte, je me dis dans ma tête, je me souviens, ok, en fait, c'est un rêve. Je peux recommencer depuis le début et essayer de retrouver une autre façon de faire. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'était que... pendant ce moment-là de mon rêve où j'étais morte, que j'arrivais à me dire « Ok, je suis dans un rêve », parce que quand je me faisais poursuivre, vraiment, c'était assez catastrophique et juste, j'avais l'impression d'être dans la réalité, quoi.
Ouais, mais moi, j'ai ça beaucoup dans les trucs de stress et de poursuite. C'est je suis à fond dans le truc, puis au moment où ça va être fatal, je me rends compte que c'est un rêve. Juste ça, je le change. Et après, je retourne dans le... Ouais. Je suis en personnage principal.
Et moi, je me souviens que ça, c'était mais en boucle, quoi. En fait, j'arrivais jamais à trouver la solution de sortir. Et je me retrouvais tout le temps à me jeter de la falaise et puis à recommencer. Ouais.
Merci pour toi, cette chronique. Ah. On n'a malheureusement pas le temps de nous raconter ses rêves lucides.
Mais donc tu nous diras en off, autour d'une bière.
Maintenant, on va revenir à nos moutons. Les rêves classiques, donc comme on les connaît, qu'on vit en toute inconscience, on associe au sommeil une panoplie de fonctions, la mémoire, la régulation émotionnelle, la résolution de problèmes. Yanis, est-ce qu'on sait le rôle que les rêves jouent dans ces fonctions-là, s'ils en jouent un ?
Pas vraiment, vu que c'est des hypothèses. C'est extrêmement compliqué à expérimenter aussi. Il y a plusieurs techniques maintenant, plusieurs paradigmes qui vont tenter d'explorer ces hypothèses-là, que ce soit pour la consolidation de la mémoire, pour la régulation émotionnelle, notamment le modèle des rêves lucides qui est très intéressant pour la régulation émotionnelle pendant le sommeil. Généralement, on peut dire que la régulation émotionnelle durant les rêves peut être permise justement en créant, en simulant des menaces particulières, en résolvant justement certains problèmes qu'on avait dans la vie éveillée. Et le fait de simuler cela va permettre de digérer l'émotion, si vous voulez, de la journée. Par exemple, c'est pour ça qu'on dit que dormir porte conseil, le sommeil porte conseil. C'est parce qu'en fait, potentiellement, nos rêves peuvent avoir une fonction, en plus du sommeil, de digestion de ces émotions-là, d'intégration de ces émotions-là.
Oui, parce que moi, par exemple, j'avais vu que donc, les rêves, ils contiennent en moyenne deux fois plus d'émotions négatives que positives. Et que d'ailleurs, il y aurait une surreprésentation de rêves négatifs chez les patients atteints du trouble du sommeil. On a une... Du coup, est-ce que c'est ça la piste d'explication, que c'est il y aurait un rôle important de la régulation émotionnelle, dans la régulation émotionnelle ?
Alors, est-ce que tu peux répéter ta question au début ? Je suis désolé.
C'est ma question, c'est juste de savoir si on a une piste d'explication de la surreprésentation d'émotions négatives dans les rêves.
Ah bah, de manière générale, en fait, on va souvent, même dans la vie quotidienne, se rappeler plus souvent des choses négatives. Mm-hmm. Donc, les rêves négatifs, ça va être les choses qui vont nous marquer en fait, pendant la nuit, et on va être plus à même de s'en souvenir le lendemain matin. Ensuite, il y a des maladies spécifiques aux troubles... De ce qu'on appelle la maladie des cauchemars. Donc les cauchemars, c'est différent des mauvais rêves. Les cauchemars, c'est quand ça vous réveille. Un mauvais rêve, ça ne vous réveille pas nécessairement. C'est dans justement, on considère qu'un cauchemar, en fait, c'est une rupture de la digestion des émotions. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de la digestion. Un mauvais rêve, c'est normal. Et c'est, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on fait le plus. C'est tout à fait classique, en fait, et normal de faire des mauvais rêves.
On va parler un peu psychologie. Toi, Yanis, qu'est-ce que tu penses de l'analyse symbolique des rêves? C'est vrai que Freud défendait l'idée que les rêves...
Il n'est pas psychologue, il est psychanalyste.
Pardon, excusez-moi, c'est le stress. Freud défendait l'idée que les rêves étaient une représentation des désirs infantiles non réalisés. Toi qui as passé plusieurs années à les étudier, tu peux nous faire un petit debunk. T'en penses quoi de l'analyse symbolique des rêves?
C'est totalement différent de la... Ça n'a pas du tout la même portée, les mêmes objectifs, la psychanalyse, que la science du rêve. C'est totalement différent. Donc déjà, séparons les deux. La science des rêves n'a pas pour finalité d'interpréter les rêves à la fin. Ça n'a aucun sens. Les rêves, c'est vous. Et les seuls à pouvoir les interpréter, c'est vous-même aussi. Parce que c'est basé sur votre vie, sur votre expérience. Donc il n'y a que vous qui pouvez les interpréter. Ensuite, sur les théories psychanalytiques, pareil, c'est... une façon différente de les approcher. C'est comme s'ils avaient grillé un peu des étapes, mais qui sont aussi, hein, ça peut être aussi très intéressant, hein, l'approche psychanalytique, mais qui est très différente. Eux, ils ont direct approché le psychique sans se questionner sur déjà le sommeil, sur quand est-ce qu'on rêve, pourquoi on rêve. Et donc, ces désirs refoulés infantiles, en fait, c'est extrêmement compliqué à expérimenter pour les sciences des rêves. Donc, je n'ai pas de réponse ou de réfutation par rapport à théorie psychanalytique, mais en tout cas, nous. C'est pas notre... Pour l'instant, on n'est pas capable de pouvoir juger de si c'est le cas ou pas. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir cette notion d'accomplissement, de désir qu'on a dans les rêves. C'est vrai, on a tous déjà rêvé d'avoir, je sais pas, quelque chose ou désirer très fort
le
quelque chose.
Voilà,
par exemple. Et donc, qui peut se réaliser pendant les rêves, effectivement. Mais à aller dans la théorie en fait, profonde psychique, on n'a pas encore les connaissances suffisantes et les avancées suffisantes pour répondre à ça.
Donc en fait, si je rêve que mes dents tombent, je vais pas mourir, ça va?
Normalement, ça va.
Ça dépend à qui tu demandes.
Mais tu vois, par exemple, ce qui est intéressant avec les dents qui tombent, c'est pas comment l'interpréter, mais c'est se questionner sur pourquoi plusieurs personnes vont le faire, en fait.
Moi, je suis juste pourquoi on a cette sensation des dents.
C'est en mode bruxisme, tu grinces des dents la nuit.
Je grince des dents et j'ai trop peur de perdre mes dents, genre.
Ok.
Une dernière question avant de passer à l'actu scientifique avec les gorgées de science. Yanis, est-ce que toi, tu as un projet de recherche sur les rêves que tu voudrais absolument réaliser?
Oui. Oui, je pense que de toute façon, tout chercheur sur les rêves a ça. Donc, comment ça, dans quel cadre? C'est-à-dire, est-ce que j'ai argent illimité, machin, et je fais ce que je veux?
Argent illimité, toutes les techniques, toutes les méthodes à ta disposition, tous les patients à ta disposition. Tu peux tout faire. Tu es dans un rêve.
Bah, alors moi, ce que j'aimerais bien faire, je pense que ce serait justement de se servir de tous les modèles possibles qu'on a actuellement, en tout cas les développer au maximum. Et l'expérience qui serait intéressante, c'est de créer comme des stations internationales dans l'espace, mais cette fois-ci dans les rêves pour les chercheurs qui, eux, pourraient aller explorer, aller accompagner en fait, les rêveurs et directement interagir peut-être avec eux. La réelle ambition en fait, de la science du rêve, c'est vraiment de poser ce pied sur le continent des rêves. C'est vraiment d'y arriver. Pour l'instant, on ne l'a pas. On le voit de loin. Les rêveurs lucides, quand on communique avec eux, c'est comme si on avait des signaux radio de loin. Les somnambules, ils arrivent avec des vestiges, des rêves avec eux qu'on voit dans les comportements, mais on n'a pas encore posé le pied. Donc l'idéal, ce serait de trouver des moyens techniques, des outils de mesure, développer des outils qui nous permettraient de créer comme les chemins de fer, en fait. Ce qui nous permettrait de poser le premier pied sur ce continent-là et de pouvoir explorer... de façon plus directe les rêves.
Il y en a qui vont te mettre une petite puce à la Neuralink, ça va être sympa.
Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire que ça.
La question piège.
Jolie métaphore en tout cas ce continent. Et donc pour finir en beauté, on retrouve Jocelyn qui vient nous abreuver de savoir avec ses gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça?
Bonjour à tous, et donc pour terminer un petit récapitulatif avec deux infos scientifiques qui m'ont paru importantes cette semaine. Donc pour commencer, on va d'abord revenir sur le cyclone Chido qui a frappé Mayotte entre le 12 et 14 décembre dernier. Et j'aimerais vous en profiter pour vous parler d'un site internet très pratique qui s'appelle Climameter. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Donc Climameter, c'est un site tenu par des climatologues qui analysent les événements météorologiques extrêmes. Et il est très pratique parce qu'ils fournissent des données en seulement quelques jours. Et surtout, ils mesurent à chaque fois l'impact potentiel du réchauffement climatique sur cet événement et le niveau de rareté de la catastrophe. Donc la prochaine fois que vous entendrez parler d'une catastrophe météorologique dans le monde, pensez à faire un tour dans les jours qui suivent sur Climameter. Bon, c'est en anglais par contre. Donc qu'est-ce que Climameter nous dit du cyclone Chido? Première information, c'est un événement qui apparaît dans une conjoncture extrêmement rare. Alors, il y a beaucoup de cyclones qui se forment chaque année dans l'océan Indien, mais celui-ci a la particularité d'être à la fois très violent et d'avoir suivi une route particulière. En effet, la majorité des cyclones qui se dirigent vers Mayotte d'habitude se heurtent d'abord aux côtes de Madagascar, ce qui les affaiblit. Sauf que cette fois-ci, le cyclone a contourné l'île malgache et a donc frappé de plein fouet l'archipel des Comores. Donc c'est donc bien une situation particulièrement rare où on a à la fois une tempête très violente et un parcours qui est pile celui qu'il faut pour qu'elle conserve sa puissance. Donc comme on le dit, ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu ça à Mayotte. Pour ce qui est du réchauffement climatique, les données ne sont pas très sûres, qu'on a très peu de cas similaires justement dans le passé pour comparer. Donc il faudra attendre encore un peu. On ne peut pas dire si le réchauffement climatique a intensifié ou même provoqué cette tempête. Par contre, de manière générale, il faut savoir que le réchauffement climatique augmente bien les chances qu'il y ait des tempêtes et leur intensité. Comme c'était le cas récemment avec les inondations en Espagne cet automne.
Ok, donc pour résumer, on sait que le réchauffement climatique il provoque des événements de plus en plus extrêmes, mais on ne sait pas encore si c'est le cas pour Chido.
Exactement.
Très bien, prochaine information.
Oui, alors la médecine a fait des avances contre la grippe. Des recherches du CNRS et l'Université de Grenoble-Alpes ont réussi à décrire le manteau du virus à une échelle atomique. En fait, l'ARN du virus se protège avec un assemblage de protéines et autres molécules qui forment un manteau. Et ce que les scientifiques ont réussi à faire, c'est qu'ils ont décrit ce manteau avec une précision de l'ordre de l'atome. Et ils ont même réussi à donner la position de l'ARN à l'intérieur et à décrire les interactions ARN-manteau.
Et c'est bien ?
Bien oui, dites-vous que ça faisait 40 ans qu'on essayait de le faire. Donc ça ouvre la voie à la conception de nouveaux médicaments capables d'attaquer directement le génome du virus.
Ok, donc une belle découverte. D'ailleurs, faites attention, nous sommes dans une petite période de grippe en ce moment, surtout dans le nord de la France. Je pense que ça ne s'entend pas du tout avec ma voix. Donc merci Jocelyn pour ces gorgées. Merci beaucoup Yanis d'avoir
merci
été
beaucoup.
Avec nous et de nous avoir
merci.
Partagé
c'était trop bien.
Ce
merci.
Sujet passionnant. Merci à Cléo d'avoir été à mes côtés, Sybille pour ta chronique et Alice pour le CAPS et pas CAPS et APA à la technique. Quant à vous, chers auditeurs, prochain rendez-vous de l'Happy Hour Scientifique le 30 janvier. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @HHScientifique et à écouter toutes nos précédentes émissions en replay sur votre plateforme de streaming favorite. C'était Ilona au service, bonne soirée et bonne année 2025.
Bon, ben, il y a messieurs, hein. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, faut bon retour, hein. Au revoir, messieurs.